Jean Lemay, merci d'avoir accepté de nous partager votre expérience de votre lit d'hôpital. Vous ne m'en voudrez pas que je confie à nos auditeurs que vous avez une peur bleue de la COVID-19. Si je le fais, c'est parce que ça me permet d'ajouter que vous n'étiez pas du genre à négliger les mesures sanitaires. Et malgré tout, vous avez fini par attraper le virus. Quand vous en êtes-vous rendu compte? Comment ça s'est manifesté?
À partir du 21 décembre, aux environs de, des courbatures, les douleurs, la fièvre qui sont jetées sur moi continuellement. Puis bon, on se dit c'est une grippe, hein, ça doit sûrement être une grippe. Je n'ai rien fait de spécial, je n'ai pas rencontré personne non plus qui pourrait m'avoir apporté ça, c'est impossible. Fait qu'on prend des Tylenol, on essaie de... Ça se règle pas. Ça se règle pas, au contraire, ça empire, la toux se mêle de ça, par la suite, pour ensuite s'apercevoir que ça devient tellement inconfortable qu'on veut en savoir plus. Alors c'est là que j'ai décidé d'aller faire le test le 29 décembre dernier.
Alors, il s'est avéré positif, mais les symptômes ont continué là de s'aggraver.
Mes reins ont été attaqués sérieusement. J'en savais absolument rien. Moi, j'avais l'impression justement que c'était... C'est comme combien de fois on dit ça, j'ai mal aux reins. Quand on a justement de la fièvre pendant une violente grippe. Mais ça n'a aucun rapport. C'est vraiment mes reins qui s'affaiblissaient de façon assez dramatique en s'asséchant. Le choc le plus violent qu'on m'a servi, ça a été ça. J'étais en train d'assécher mes reins. Alors, ça a été beaucoup, beaucoup de traitements pour réhydrater ces organes-là qui ont été d'abord, je pense, les premiers efforts aux soins intensifs dès jeudi dernier. Puis ensuite, là, ça s'est enchaîné. Les autres éléments ont... Il a fallu aussi, bien sûr, il faut aussi contrôler la toux, donc contrôler l'usage des poumons, l'usage des poumons qui est régi par l'ajout qu'on fait de passablement d'oxygène pendant un bon moment. Il y a tout un cocktail là, qui s'ajoute.
Mais il y a ce moment-là où c'est devenu à ce point intolérable que vous, votre conjointe, je ne sais pas qui, avez décidé d'appeler l'ambulance là, pour être conduit à l'hôpital.
Non, c'est encore plus hallucinant que ça, Sylvain. Je suis dans ma chambre, je suis sur le point de... Je me réveille à peine, le téléphone me retentit. Quand tu reçois un diagnostic, tu reçois ensuite des questionnaires. En fait, c'est que tu vas être en contact pendant un ou deux ou trois ou quatre appels, ça va dépendre. Il y a des enquêteurs qui vont continuer de fouiller la question pour s'assurer qu'on remet bien en lumière tous ceux qui pourraient être touchés par ton cas. Alors, je suis au téléphone avec un type qui se présente comme étant justement un de ces enquêteurs-là. On jase au téléphone, j'ai de la difficulté un petit peu à m'exprimer. Il dit, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà en détresse respiratoire. Je sais pas trop, là, je me réveille à peine, là, je sais pas c'est combien de temps, je sais pas si c'est la détresse respiratoire ou quoi, j'ai toussé. Je me suis retrouvé à aller vérifier à la salle de bain l'état de mon teint, parce qu'il me disait allez vérifier, voir si vous êtes vous avez des couleurs. Là, je m'aperçois que j'étais verdâtre, j'étais bon. Donc là, il dit bougez pas. Donc, c'est le type aux questions au bout du fil qui a appelé les ambulanciers. les ambulanciers locaux là, de Richelieu chez nous, l'excellente équipe des ambulancières et les ambulanciers de chez nous, qui ont été le temps de le dire à la maison, m'ont amené d'abord à l'Hôtel-Dieu. C'était de longues heures parce que j'avais pas eu le temps de manger quoi que ce soit, pas bu quoi que ce soit. J'ai été complètement déboussolé, déshydraté. Quand ils ont décrété que bon, ben on monte à bord de l'ambulance à nouveau, puis on s'en va à la l'unité d'urgence, pas l'unité d'urgence, mais les soins intensifs de Charlemagne, ça a été libérateur, parce qu'à partir de ce moment-là, là, je me suis senti pris en charge vraiment sérieusement. Puis à partir de là, on a connu que des pas en avant. À chaque écoute, je suis arrivé là le jeudi soir en début de soirée. On était la veille du jour de l'an. Ils ont commencé déjà à entreprendre tout ce qu'il y avait à entreprendre dès mon arrivée. Fait que j'ai aucune idée. D'ailleurs, tout ça se faisait sans trop ma pleine conscience de ce qui se passait. Puis on m'annonçait heure après heure, on a franchi telle étape, bravo, ça fonctionne bien. On a réussi à avancer vers ça. Tout ça pour finalement m'annoncer le lendemain soir, le vendredi soir, que bon, ben, il y avait suffisamment d'avancées justement pour libérer de la place de soins intensifs pour des gens qui en avaient plus besoin que moi à ce moment-là. Parce que c'est ça qui est incroyable. C'est ça que les gens voient pas. C'est ça qui serait mon cri du cœur. Si je dois juste dire quelques mots encore, c'est de dire à quel point les gens doivent réaliser à quel point c'est important de faire en sorte de libérer notre système de santé pour qu'il puisse survivre à ça, que vous puissiez survivre, parce que vous allez peut-être en avoir de besoin et il ne sera plus là parce qu'il va être en train de s'effondrer. Il y a tellement de gens qui travaillent très fort et qui voient leurs efforts bafoués par des gens qui prennent ça vraiment pas au sérieux.
Comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de cette nouvelle, là, des 1000 $ remis aux voyageurs qui reviennent au pays pour pouvoir ainsi passer leur quarantaine là, payée par l'État?
Si ça avait été un journal, il aurait été déchiré et foutu aux poubelles. Mais c'était sur mon téléphone que je l'ai appris, donc j'ai pas pu y toucher. J'étais complètement dégoûté. Complètement dégoûté. Parce que je venais d'apprendre ici, à Charlemagne, que quelqu'un perdait tout revenu parce qu'elle avait il y avait une enquête en cours sur comment elle avait pu contracter le COVID. Alors l'employé en question, qui se dévouait corps et âme, se retrouvait sans aucun revenu, elle. Parce qu'elle a travaillé et elle a attrapé la COVID, tandis que quelqu'un va se voir offrir de l'argent pour rester chez elle plus longtemps parce qu'elle aura défié la santé publique et sera quand même allée en vacances, se dorer au soleil. Écoutez, je trouve ça aberrant. Je ne veux pas faire de politique, mais je trouve ça tellement aberrant.
Là, vous avez appris depuis votre hospitalisation que votre conjointe était elle-même testée positif. C'est pas une grande surprise, j'imagine.
Non, ben le fait de vivre à proximité comme ça, c'était pratiquement inévitable. Sauf que la COVID, ce qui m'inquiète, c'est de le vivre à distance, parce que la COVID étant ce qu'elle est, ce que je m'aperçois qu'elle est. Aussi imprévisible qu'elle peut l'être, ça m'inquiète, parce que ça fait en sorte que je ne sais pas comment, pour elle, ça peut se développer. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir des symptômes très importants. Peut-être qu'elle sera sera complètement asymptomatique, tant mieux. Peut-être qu'elle va traverser cette période-là. En même temps, on se parle au téléphone, on se parle un petit peu à chaque jour, mais on peut pas être en présence plus que de se voir sur l'écran en se jasant le matin un petit peu en après-midi.
Mais Jean, nos meilleures pensées t'accompagnent?
J'ai appris à la regarder dans les yeux avec beaucoup de prudence, cette maudite maladie.
Merci Jean, merci. Prompt rétablissement.
Ouais.